Chapitre 22. Côte de Crisée Planitia.
J'ai tué mon ami Orfudio,
avoua Manmut à William Shakespeare. Ils se promenaient tous les deux au bord de la Tamise. On était en 1592 après Jésus-Christ, à la fin de l'été, mais Manmut ignorait comment il savait cela. Le fleuve grouillait de barges, de péniches et de chalands. Côté nord, derrière les immeubles de style Tudor et les taudis branlants, se dressaient à profusion les clochers londoniens, ainsi que quelques tours. Une chape de brume pesait sur le fleuve et sur ses deux berges.
J'aurais dû sauver Orfu, mais je ne le pouvais pas,
ajouta Manmut. Il devait presser le pas pour rester à hauteur du dramaturge. Shakespeare était un homme trapu, proche de la trentaine, qui parlait d'une voix douce et portait des vêtements plus recherchés que Manmut n'aurait cru en découvrir sur un acteur. Son visage dessinait un ovale parfait, avec un front dégagé, des favoris et un fin duvet sur le menton et au-dessus des lèvres, comme si Shakespeare s'essayait tout juste à porter la barbe. Il avait les cheveux bruns, les yeux gris-vert, et était vêtu d'une veste noire d'où émergeait le col d'une chemise blanche, maintenue en place par des lacets également blancs. Un petit anneau ornait son oreille gauche. Manmut avait envie de lui poser 1000 questions. Qu'écrivait-il en ce moment? À quoi ressemblait la vie dans cette ville que la peste allait bientôt ravager? Quelle était la structure cachée des sonnets? Mais il ne pouvait s'empêcher de lui parler d'Orfu.
« J'ai bien tenté de le sauver, » expliqua-t-il. « Le réacteur de la Dame Noire est tombé en panne. Et puis, les batteries m'ont lâché à moins de 5 kilomètres de la côte. Je cherchais un moyen d'accéder à l'une des nombreuses grottes situées sous les falaises. Il fallait bien cacher le submersible quelque part. »«
La Dame Noire, » répéta Shakespeare, « c'est le nom de votre navire ?»«
Oui. Continuez, je vous en prie. » Orfu et moi parlions des visages de pierre. Il faisait nuit. Nous avions préféré attendre la tombée du soir pour entamer notre approche. Mais j'avais activé le périscope à vision nocturne et je lui décrivais ses visages. Il était encore en vie. Le navire lui fournissait juste assez d'eau d'œuf.
D'eau d'œuf ?
D'air, expliqua Manmut. Comme je le disais, j'étais en train de lui décrire les grandes têtes de pierre.
Les grandes têtes de pierre ? S'agissait-il de statues ?
Des monolithes d'une 20aine de mètres de haut.
Avez-vous reconnu le visage de ces statues? S'agissait-il de l'une de vos connaissances, ou bien d'un roi, ou d'un conquérant réputé?
Ces visages étaient trop éloignés pour que j'en distingue les détails.
Ils arrivaient devant un grand pont reposant sur de nombreuses piles, sur lequel étaient édifiés des bâtiments à 3 niveaux. Une galerie de 4 mètres de large les traversait de part en part, tel un tunnel, et les passants qui s'y trouvaient en ce moment étaient mêlés à un troupeau de moutons que l'on conduisait vers la cité. Le long de cette galerie étaient plantés des poteaux, ornés de têtes humaines, tantôt momifiées, tantôt réduites à l'état de crâne sur lesquels subsistaient quelques cheveux ou quelques lambeaux de chair, et tantôt si horriblement fraîches que leur peau était encore marbrée de rose.
« Qu'est-ce que c'est que cela ? »
demanda Manmut. Ses composants organiques frémissaient.
« Le pont de Londres, » dit Shakespeare. « Racontez-moi donc ce qui est arrivé à votre ami. »
Là, de garder les yeux fixés sur le dramaturge, Manmut grimpa sur un muret qui faisait office de rambarde. Il distinguait à l'est une tour imposante et il supposa qu'il s'agissait de la tour de Londres mentionnée dans Richard III. Quoique sachant qu'il rêvait ou qu'il délirait sous l'effet du manque d'oxygène, il ne souhaitait pas que ce songe s'achève sans qu'il ait posé quelques questions à Shakespeare.
Avez-vous déjà commencé à écrire vos sonnets, maître Shakespeare ?
Un sourire aux lèvres, le dramaturge jeta un regard vers le fleuve puant, puis considéra la ville puante. Ce n'était partout qu'immondices, carcasses de bœufs et de chevaux pourrissant sur les berges, morceaux de poulet flottant dans les caniveaux et les mares stagnantes. Manmut avait désactivé ses fonctions olfactives. Il se demandait comment les humains pouvaient supporter cette infection.
« Comment savez-vous que je tâte du sonnet ?» demanda Shakespeare.
Manmut imita un haussement d'épaule.
« Simple intuition. Donc, vous avez commencé à en écrire ?»«
J'envisage de m'amuser avec cette forme, » admit l'auteur dramatique.
« Et qui est le jeune homme des sonnets ? »
demanda Manmuth, tout excité à l'idée de résoudre cet ancien mystère.
S'agit-il d'Henry Wyatt Tesley, le comte de Southampton?
Shakespeare battit des cils sous l'effet de la surprise et fixa le Moravec avec la plus grande attention.
Vous semblez me suivre de près dans mes entreprises, petit Caliban.
Manmuth acquiesça.
Donc, Wyatt Tesley est le jeune homme des sonnets?
Sa seigneurie aura 19 ans en octobre, et le duvet qui surmontait sa lèvre, dit-on, s'est transformé en buisson. On ne saurait le qualifier de jeune.
Alors, c'est William Herbert?
Il n'a que 12 ans et deviendra comte de Pembroke dans 9 ans.
Vous connaissez donc l'avenir des successions et des accessions?
Lança Shakespeare d'un ton ironique. Maître Caliban voguerait-il sur les océans du temps tout comme il vogue sur ceux de Mars?
Manmuth était trop excité pour relever cette saillie.
Vous dédierez le grand folio de 1623 à William Herbert et à son frère. Et quand on imprimera vos sonnets, vous les dédierez à W.H.
Shakespeare considéra le Moravec comme s'il s'agissait d'une vision due à la fièvre. Manmuth aurait voulu lui dire
« Non, c'est vous qui êtes le rêve d'un cerveau mourant, maître Shakespeare, pas moi !»
« Il est intéressant à mes yeux que vous ayez pour amant un jeune homme ou un adolescent, »
dit-il à voix haute. Manmuth fut surpris par la réaction du poète. Shakespeare se retourna, saisit la dague passée à sa ceinture et la pointa sur l'unité crânienne du Moravec.
« Avez-vous un œil, petit Caliban, que j'y plante cette lame ?»
Prenant soin de ne pas faire frémir sa permichère afin que la lame ne s'y enfonce pas, Manmuth secoua doucement la tête et répondit
« Je vous prie de m'excuser. Je suis étranger à votre ville, à votre pays et à vos usages. »
« Vous voyez ces trois têtes sur le pont ?» demanda Shakespeare. Manmuth réorienta son champ visuel sans bouger la tête.
«
La semaine dernière, à cette heure-ci, ces hommes étaient étrangers à nos usages, » gronda le poète.
« Je vois. Merci d'avoir pointé mon erreur. Sans jeu de mots. »
Shakespeare remit la dague dans son fourreau de cuir. Manmuth se rappela que cet homme était acteur et par conséquent un peu cabotin, mais cette dague n'avait rien d'un accessoire de théâtre. Et la réaction de Shakespeare ne réponse négative. Tous deux se tournèrent vers le fleuve. À l'ouest, un gigantesque soleil d'un orange improbable flottait au sein de la brume. Shakespeare reprit la parole d'une voix toute douce.
Si j'écris ces sonnets, Caliban, ce sera pour y explorer mes échecs, mes faiblesses, mes compromissions, mes complaisances et mes tristes ambiguïtés, comme on fouille le trou laissé par une dent que l'on a perdue lors d'un pugilat de taverne. Comment avez-vous tué votre ami, cet Orfudio?
Manmuth mit une seconde avant d'assimiler la question.
Je n'ai pas pu conduire la dame noire dans la grotte que j'avais repérée. J'ai échoué dans cette tâche. Le réacteur a soudain rendu l'âme, il n'y avait plus de puissance. La dame a sombré dans 4 brasses d'eau à 3 kilomètres du but. J'ai voulu vider tous les ballasts pour l'incliner sur un côté. Cela m'aurait permis d'accéder à mon ami par la porte de la soute, mais le submersible était déjà coincé.
Manmuth se tourna vers le poète. Ce dernier semblait lui accorder toute son attention. Derrière lui, les édifices sur le pont étaient bariolés de rouge par le couchant.
J'ai fait une sortie, passant en mode respiratoire interne, et je suis resté en plongée des heures durant. J'ai essayé des leviers, j'ai essayé le chalumeau, j'ai essayé mes manipulateurs, mais je ne suis pas arrivé à ouvrir cette satanée porte. Pas plus que je n'ai pu dégager un accès à l'écoutille par la coursive. Orfu est resté en communication radio pendant un temps, et puis je l'ai perdu au moment où mes systèmes de bord m'ont lâché. Pas un instant il n'a paru inquiet ni terrifié, simplement fatigué, très fatigué, jusqu'à ce que je perde le contact. Tout était noir. J'ai dû perdre connaissance. Peut-être qu'en ce moment, je gis au fond de l'océan martien, aussi mort qu'Orfu, ou alors près de mourir, et que je rêve cette conversation tandis que succombent les dernières cellules de mon cerveau organique.
Ton sein de tous ces cœurs s'est fait une richesse,
dit Shakespeare d'une voix dénuée de toute intonation. Tu les as crus morts pour les avoir perdus. Et là règne l'amour en sa plus rare espèce, et tous ces amis chers que tu crois disparus. En reprenant connaissance, Manmut se retrouva sur la plage, éclairé par un soleil encore bas, et entouré par plusieurs douzaines de petits hommes verts. Penchés sur lui, ils le fixaient de leurs petits yeux noirs plantés dans leur visage d'un vert translucide, et ils reculèrent d'un pas ou deux lorsque Manmut se redressa en position assise, faisant légèrement bourdonner ses cerveaux. Ils étaient petits. Manmut mesurait un peu plus d'un mètre. Ces êtres étaient encore moins grands. Quoique de formation humanoïde, bien plus que Manmut, ils n'avaient pas d'apparence humaine. Ils étaient bipèdes, pourvus de bras et de jambes, mais ils n'avaient ni oreilles, ni nez, ni bouche. Ils ne portaient pas de vêtements et n'avaient que trois doigts à chaque main, évoquant un personnage de dessin animé que Manmut avait vu dans les archives de l'ère perdue. Ils étaient en outre asexués, et leur chair, si on pouvait parler de chair, était transparente comme du plastique mou, révélant une absence d'organes et de veines, leur corps étant rempli de globules, de particules et de grumeaux d'un vert uniforme, flottant et bouillonnant d'une façon qui n'était pas sans évoquer la lampe à lave chérie de Manmut, désormais engloutie avec le submersible. D'autres petits hommes verts descendaient un sentier creusé sur la falaise. Manmut aperçut le plus récent visage de pierre un kilomètre à l'est. Le prochain attendait d'être érigé au bord de la falaise, attaché par des cordages à un lit de rondin. Il lui était impossible d'en distinguer les détails.
« Oh diable, ces fichues têtes !»
Manmut pivota sur lui-même et fouilla du regard la plage et l'océan. Les vagues s'écrasaient doucement avec une régularité de métronome. « Où est la Dame Noire ?»«
Là,
à 200 mètres du rivage, on voyait émerger une partie de son kiosque et de sa coque. Le sonar et le bathymètre du submersible avaient rendu l'âme avant lui, et Manmut avait commis le plus antique et le plus grave des crimes que peut commettre un capitaine. Il avait fait échouer son navire. Il était pourtant alimenté en eau deux pendant qu'il s'escrimait sur la porte de la soute, mais il avait dû s'évanouir, puis être jeté sur la plage durant la nuit.
Refus !
Combien de temps avait-il perdu à délirer avec Shakespeare ? Un peu moins de 4 heures à en croire son chronomètre interne.
Peut-être est-il encore en vie là-dedans ?
Il se dirigea vers l'océan, bien décidé à gagner le submersible en marchant sous les eaux. Une douzaine de petits hommes verts lui bloquèrent le passage. Puis il y en eut 20, puis 50. Ils étaient une centaine en tout à le cerner sur la plage. Manmut n'avait jamais levé la main ni le manipulateur sur quiconque, mais s'il le fallait, il était prêt à se battre, à user de violence pour se frayer un passage dans cette foule. Toutefois, il décida d'essayer le dialogue au préalable.
« Écartez-vous de mon chemin !»
dit-il, amplifiant sa voix au maximum pour qu'elle résonne dans l'atmosphère martienne.
« S'il vous plaît !»
Des yeux noirs le fixaient sur des visages verts. Mais ces êtres n'avaient ni oreille pour l'entendre, ni bouche pour lui répondre. Partant d'un rire amer, Manmut entreprit de se frayer un chemin parmi eux, sachant que la seule force de leur nombre finirait par le terrasser. Certains allaient s'asseoir sur lui pendant que les autres le réduiraient en pièces. Ses entrailles organiques se nouèrent à l'idée d'une telle démonstration de violence. L'un des petits hommes verts leva la main comme pour lui dire « stop ». Manmut fit halte. Toutes les têtes vertes se tournèrent vers la droite en direction de la plage. La foule s'écarta comme par magie pour laisser passer un petit homme vert, strictement semblable à tous les autres, qui s'arrêta devant Manmut et tendit ses deux mains en coupe, comme s'il priait ou lui offrait un bol invisible. Manmut resta sans comprendre. Et il n'avait pas le temps de parlementer en utilisant le langage des signes. Peut-être Corfu était encore vivant. Il voulut écarter le petit homme, mais une vingtaine de ses congénères se massèrent derrière lui, bloquant le passage. Manmut n'avait qu'une seule alternative, soit il recourait à la violence, soit il communiquait avec l'émissaire. Poussant un soupir proche du gémissement, il tendit les mains en imitant le geste du petit homme vert. ce dernier secoua la tête, toucha le bras gauche de Manmut, auquel ses sens organiques et ses capteurs électroniques apprirent que ses doigts verts étaient plutôt froids, l'abaissa, puis lui empoigna le bras droit. Le petit homme vert tira vers lui la main du Moravec, jusqu'à ce que les doigts et la paume soient plaqués sur son torse transparent. Le petit homme vert tira plus fort, s'avançant non sans effort, et Manmut vit avec horreur sa main creuser la chair verte et la pénétrer. Il faillit la retirer sous l'effet du choc, mais le petit homme vert refusa de relâcher son étreinte et continua de pousser. Manmut vit sa main noire nager au sein du fluide qui palpitait dans la poitrine du petit homme vert, sentit la chair transparente se refermer autour de son avant-bras comme pour combler une brèche. Tous les petits hommes verts se plaquèrent les mains sur le torse. Les doigts de Manmut palpèrent un objet dur et quasi sphérique. Il distingua au centre du thorax du petit homme vert un grumeau également vert de la grosseur d'un cœur humain. Sa main perçut une pulsation. Le petit homme vert tira une nouvelle fois et Manmut comprit. Il referma ses doigts autour de l'organe.
« Que voulez-vous ?»
Surpris, Manmut faillit retirer sa main. Il ordonna à ses doigts de ne pas bouger, de rester autour du grumeau cardiaque du petit homme vert. Il avait senti la question couler jusqu'à son cerveau sous forme de pulsation, de palpitation, de vibration. Il n'était pas ici question de mots, ni d'un quelconque langage de sa connaissance, l'anglais, le français, le russe, le chinois ou le primaire. Comme il ne savait pas comment répondre, il prit la parole.
« Je veux sauver mon ami qui est prisonnier de ce navire là-bas. »
150 têtes vertes se tournèrent à l'unisson vers le submersible. 300 yeux noirs le regardèrent pendant quelques secondes, puis se retournèrent vers Manmut.
« Dites-nous où il est avec vos pensées. »
Manmut ferma les yeux et visualisa Orfu dans la soute, puis la porte de celle-ci, les coutilles et la coursive. La réponse palpita le long de son bras.
« Attendez. »
Manmut sentit que sa main était libre, et il la dégagea des chairs vertes avec un horrible bruit de succion. Le petit homme vert s'effondra alors sur le sable, roula sur le flanc et ne bougea plus. Les grumeaux verts cessèrent de s'agiter dans son corps, ses yeux noirs se parèrent d'un voile blanc, et ses doigts se figèrent après un ultime tressaillement. Les 140 et quelques congénères entreprenaient déjà le sauvetage d'Orfu. Manmut se laissa choir près de ce qui était visiblement le cadavre de l'émissaire.
« Sainte Mère de Dieu !» songea le Moravec. « Communiquez les tu !»
D'autres petits hommes verts descendirent de la falaise. Ils furent bientôt 200, 300, 600. Manmut cessa de les compter et, ignorant l'ultime requête de l'émissaire, se dirigea en pataugeant vers le submersible échoué. Il gagna son environniche en passant par les coutilles du kiosque, vérifia les batteries au cas où elles seraient de nouveau opérationnelles. Négatif. Il emprunta un sas pour se rendre dans la coursive engloutie et descendit jusqu'à l'endroit où la coque était défoncée. Impossible de passer par là. Regagnant la salle de contrôle, il tenta d'établir le contact radio avec Orfu. Silence total. Manmut récupéra son édition reliée des sonnets, protégée par une poche étanche, la rangea dans un sac à dos ainsi que d'autres objets. Le port-com qu'il avait bricolé à l'intention d'Orfu, les disques contenant le journal de bord du navire, des cartes imprimées, un pistolet lance-fusée, des cellules énergétiques, et regagna le sommet du kiosque. Les petits hommes verts avaient descendu plusieurs longueurs de l'épais câble noir qui maintenait en place la tête de pierre qu'ils tractaient en haut de la falaise, plus quelques vingtaines de rondins sur lesquels reposait la tête en question. Ils travaillaient avec une efficience redoutable. Certains nageaient jusqu'au submersible pour y fixer des amarres au-dessus et au-dessous du niveau de l'eau. D'autres plantaient dans le sable et sur la falaise rocheuse des tiges de métal prélevées sur les rondins, sans parler de ceux qui mettaient les poulies en place et transportaient les câbles dans un sens ou dans l'autre. Le submersible était très lourd, d'autant plus que ses coursives et sa salle des machines étaient envahies par les eaux. Et Manmut ne pensait pas que ses petits travailleurs allaient réussir à le déplacer. Il se trompait. En moins de 20 minutes, plusieurs centaines de câbles reliaient le bâtiment au rivage, chacun maintenu fermement par quantité de petits hommes verts. Ceux-ci avaient conscience d'accomplir une mission de sauvetage. Leur première initiative fut de haler avec force, tendant les câbles qui dessinèrent des lignes noires au-dessus du sable, afin de renverser le submersible sur son flanc droit. L'instinct de Manmut lui commandait d'aller leur prêter main forte, mais il savait que ce serait inutile. Il se posta donc sur la coque de la Dame Noire, se mouvant à mesure qu'elle se mouvait, et dès que la porte de la soute eut émergé de la boue, plongea dans l'eau peu profonde, armé d'un levier motorisé par une cellule énergétique, ses lampes réglées à l'intensité maximale. La porte avait été gauchie et partiellement fondue par l'entrée dans l'atmosphère, et Manmut constata bien vite qu'il ne pouvait l'entrouvrir que de quelques centimètres. Regrettant de ne pouvoir pleurer de frustration, il tapa sur la coque d'un poing rageur, puis se rendant compte qu'il n'était pas seul, se retourna dans les eaux troubles. Une demi-douzaine de petits hommes verts se tenaient près de lui et l'observaient. Apparemment, ils n'avaient pas besoin de respirer. Comme il ne souhaitait pas leur imposer le coup mortel d'une nouvelle communication, il désigna la porte entrouverte, puis la surface, et mima une série d'actions. J'enroule un câble, je le fixe au métal déchiré et je tire de toutes mes forces. 6 petits hommes verts opinèrent du chef, puis remontèrent les 3 mètres les séparant de la surface. 1 minute plus tard, il en arrivait 60, armés qui d'un câble, qui d'une de ces tiges métalliques noires prélevées sur les rondins transportant la tête de pierre. Faisant à nouveau preuve d'une efficacité improbable, ils s'affaissèrent à élargir une seconde ouverture de l'autre côté de la porte et à passer des câbles de l'une à l'autre comme par le chat d'une aiguille. Puis ils remontèrent à la surface, faisant signe à Manmut de les suivre. Il put à nouveau respirer, sentir le soleil sur sa peau et son polymère, et s'installa sur la coque de la Dame Noire pendant que des centaines de petits hommes verts mettaient en place un réseau de poulies fixées à la falaise, y passaient les câbles et tiraient, et tirait, et tirait encore. Le submersible grinça, sa coque grogna, l'eau trouble vibra, et la Dame Noire pivota de 30 degrés supplémentaires vers tribord, tournant sur elle-même, jusqu'à ce que le ventre du submersible soit positionné face au ciel et que la poupe soit orientée vers la plage. Quant à la porte, elle plia mais ne rompit point. Manmut repartit à l'assaut avec son levier. Le métal torturé refusa de céder. Son chalumeau était à court d'eau 2 comme de puissance. Avec beaucoup de douceur, les petits hommes verts l'arrachèrent à ses efforts infructueux. Mais Manmut leur échappa et repartit obstinément vers la soute, trébuchant sur la coque glissante, bien décidé à s'escrimer sur la porte rétive jusqu'à épuiser ses propres cellules énergétiques. Et c'est alors qu'il constata que les PHV n'avaient pas renoncé eux non plus. Ils avaient entrepris de tresser leurs câbles, fabriquant une corde là où il y en avait 50. Puis ils la traînèrent jusqu'à la falaise, la faisant passer par une série de poulies surdimensionnées reliées à un réseau de tiges plantées dans la falaise à la façon de pitons. L'extrémité du câble fut finalement passée autour de la gigantesque tête de pierre, enroulée 12 fois autour du cou avant d'être fermement nouée. 5 petits hommes verts s'approchèrent de Manmut et tout doucement le firent descendre du submersible. Le Moravec n'en croyait pas ses yeux. Il avait cru que les petits hommes verts considéraient ces grands visages de pierre comme sacrés, que leur transport et leur érection par millions le long de la côte résultaient d'un impératif religieux ou psychologique exigeant qu'ils lui consacrent tout leur temps, toute leur énergie et toute leur dévotion, une priorité absolue au niveau de l'espèce. De toute évidence, il s'était trompé. Plusieurs centaines de silhouettes vertes firent tourner la tête sur son support, la poussèrent et la jetèrent à bas de la falaise. Elle tomba d'une hauteur de 60 mètres, son visage tourné vers la paroi, et se fracassa en une douzaine de morceaux sur les rochers, mais le câble eut le temps de faire son office, bien que plusieurs tiges aient jailli de la roche, arrachant la porte de la soute et la projetant sur une hauteur de 20 mètres, avant qu'elle heurte la falaise et retombe sur le sable. Des centaines de petits hommes verts nagèrent vers le submersible, mais Manmut fut le premier à l'atteindre, toute lampe dehors. Il retrouva les trois objets qu'il avait laissés dans la soute, dont l'engin qu'ils étaient censés livrer à Olympus Mons. Et là, dans sa crèche, cabossé, brisé, muet, gisait Orfudio. Manmut utilisa les dernières ressources de son levier motorisé pour le débarrasser de ses sinistres sangles. La masse colossale d'Orfu se mit à flotter dans l'eau de mer. Mais la porte était à présent au-dessus de lui, le submersible renversé sur le dos, et jamais il ne parviendrait à extraire l'Ionien de ce piège partiellement englouti qu'était devenu la soute. Une douzaine de petits hommes verts le rejoignirent, localisèrent des prises sur la carapace vérolée et fendillée d'Orfu et glissèrent bras et jambes sous l'encombrante masse du Moravec. Ils trouvèrent un point d'appui et le soulevèrent. Travaillant dans un silence absolu, sans jamais glisser ni lâcher leur fardeau, ils hissèrent doucement Orfu, l'enveloppèrent de câbles, le firent émerger au-dessus de la coque incurvée de la Dame Noire, l'immergèrent doucement dans l'eau, le firent flotter sur des rondins, confectionnèrent un radeau avec ceux-ci et propulsèrent doucement le corps de l'Ionien vers la plage. Les petits hommes verts, il y en avait maintenant un bon millier sur la grève, s'écartèrent autour de Manmut tandis qu'ils s'affairaient à déterminer si Orfu était encore vivant. L'Ionien gisait inerte sur le sable rouge comme un gigantesque trilobite de la préhistoire terrienne rejeté par les vagues à l'issue d'une tempête. Après avoir scruté le ciel en quête des chars qui n'allaient sûrement pas tarder à lui fondre dessus, Manmut vida son sac à dos et ses sachets étanches de l'équipement qu'il avait récupéré à bord de la Dame Noire. Il commença par aligner 5 cellules énergétiques, petites mais puissantes, les connecta en série et brancha un câble sur l'un des ports survivants d'Orfu. Il n'obtint aucune réaction, mais l'indicateur virtuel lui montra que l'énergie était acheminée quelque part. Ensuite, Manmut grimpa sur la carapace d'Orfu, impressionné par les dommages qu'avait subi son ami et qu'il découvrait pour la première fois à la lumière du jour, et inséra le récepteur radio dans le port-com. Il testa la communication, recevant pour sa peine un bourdonnement rassurant, et activa son propre microphone.
« Orfu ?»
Pas de réponse.
« Orfu ?»
Silence. La foule de petits hommes verts le fixait patiemment.
Orfu ?
Manmut persista durant 5 minutes, appelant toutes les 20 secondes sur toutes les fréquences accessibles et vérifiant la connexion à plusieurs reprises. L'unité com recevait sa transmission. C'était Orfu qui ne répondait pas.
Orfu ?
Le silence n'était pas absolu. Grâce à ses capteurs externes, Manmut entendait plus de bruit de fond qu'il n'en avait entendu de sa vie. Le murmure des vagues lapant le sable, le souffle du vent sur la falaise, la douce rumeur des petits hommes verts changeant de position de temps à autre, et les 1000 vibrations nuancées d'une atmosphère planétaire comme celle-ci. Il n'y avait que la liaison et Orfu pour rester muet.
Orfu ?
Manmut consulta son chronomètre. Cela faisait plus de 30 minutes qu'il s'escrimait. À contre-cœur et comme au ralenti, il descendit de la carapace de son ami, fit 15 pas sur la plage et s'assit sur le sable mouillé, là où l'eau venait le lécher. Les petits hommes verts s'écartèrent devant lui, puis l'entourèrent à une distance respectueuse. Manmut les considéra. Une muraille de minuscules corps verts, de visages inexpressifs, et d'yeux noirs qui ne sciaient jamais.
« Vous n'avez rien d'autre à faire ?»
leur lança-t-il. Sa voix semblait étrange à ses propres entrées auditives. Peut-être était-ce dû à l'acoustique de l'atmosphère martienne. Les PHV ne bougèrent pas. La tête de Pierre était réduite en pièces au pied de la falaise, mais les petits hommes verts ne semblaient pas s'en soucier. Une 20aine de câbles restaient fixés au submersible qui gisait inerte sous la caresse des vagues. Manmut sentit soudain déferler sur lui le chagrin et le mal du pays. Il n'avait connu que 3 relations intimes durant ces 3 décennies joviennes d'existence, soit plus de 300 années martiennes, D'abord, la Dame Noire, qui n'était qu'une machine semi-consciente, mais pour laquelle il avait été expressément conçu et dans laquelle il se sentait à sa place. La Dame était morte. Puis il y avait eu Hurtzweil, son équipier, qui avait péri 18 années J auparavant alors que Manmuth n'avait vécu que la moitié de sa vie. Et maintenant, Orphu. Voilà qu'il se retrouvait à des centaines de millions de kilomètres de chez lui, seul, totalement inapte et absolument pas préparé à la mission qu'on lui avait confiée. Comment était-il censé parcourir les 5000 kilomètres le séparant d'Olympus Mons pour y poser l'engin? Et en supposant qu'il y parvienne. Coros III savait peut-être ce qu'il fallait faire une fois là-bas, peut-être connaissait-il la vraie nature de leur mission. Mais le misérable Manmuth de la défunte Dame Noire n'en avait pas la moindre idée. « Arrête de te lamenter sur ton sort, crétin !» se dit-il. Manmuth regarda les PHV. C'était peut-être une illusion, mais il lui semblait triste, voire peiné. Il n'avait même pas pleuré la mort de l'un des leurs. Comment pouvait-il s'émouvoir de celle d'un mort avec, d'une machine intelligente dont il n'avait jamais imaginé l'existence? Manmuth savait qu'il devrait à nouveau communiquer avec les petits hommes verts, mais l'idée de plonger sa main dans l'un d'eux, de le tuer en s'entretenant avec lui, le révulsait. Non, il attendrait d'y être obligé. Il se releva, retourna auprès du cadavre d'Orphu et entreprit de déconnecter les cellules énergétiques.
Hey « Hé !» protesta Orphu sur la bande com. « Je n'ai pas fini de manger !»
Manmuth fut si surpris qu'il fit un petit bond. « Seigneur, tu es vivant ?»«
Aussi vivant que peut l'être un mort avec. »
« Sacré nom de Dieu !»
s'exclama Manmuth, partagé entre l'envie de rire, celle de pleurer, et celle de frapper le gros crabe tout cabossé.
« Pourquoi n'as-tu pas répondu quand je t'ai appelé? Je n'ai pas arrêté, bon sang !»«
Qu'est-ce que tu racontes ?»« J'étais en hibernation. » J'étais dans cet état depuis que la dame s'est retrouvée à court d'air et d'énergie. Tu crois que je peux bavarder quand je suis en état d'hibernation?
Qu'est-ce que c'est que cette connerie d'hibernation?
Dit Manmuth en marchant autour de son ami.
C'est la première fois que j'entends parler d'un mort avec qui hiberne.
Vous n'avez pas cette option sur Europe?
Bah, évidemment non!
Eh bien, que veux-tu que je te dise? Les morts avec comme moi, conçus pour travailler dans le vide spatial, que ce soit dans le tore de radiation d'Io ou ailleurs dans l'espace jovien, se retrouvent parfois dans des situations où ils n'ont pas d'autre choix que de désactiver leur système jusqu'à ce que quelqu'un vienne les récupérer et les réparer. Ça arrive. Pas souvent, mais ça arrive.
Combien de temps peux-tu rester en état de d'hibernation?
Demanda Manmuth, dont la colère laissait place à une sorte de jubilation.
Pas très longtemps. Environ 500 heures.
Manmuth fit sortir ses doigts de ses coussins manipulateurs, ramassa un caillou et en frappa la carapace d'Orphu.
Tu n'entends rien?
Demanda ce dernier. Manmuth soupira, s'assit dans le sable, à proximité de l'endroit où s'étaient jadis trouvés les yeux de son ami, et entreprit de lui décrire leur situation présente. Orphu persuada Manmuth d'entrer à nouveau en communication avec les PHV par l'intermédiaire d'un traducteur. L'Ionien était tout aussi écœuré que lui à l'idée de causer la mort d'un petit homme vert, d'autant plus que c'était eux qui l'avaient secouru. Mais il affirmait que le succès de leur mission dépendait de cette communication et qu'il fallait en outre faire vite. Manmuth avait vainement tenté d'autres méthodes, du langage des signes au dessin dans le sable. Il avait tracé une carte montrant l'endroit où il se trouvait et le volcan où il devait se rendre, allant jusqu'à recourir aux cris comme tout imbécile égaré dans un pays dont il ne parle pas la langue. Les PHV s'étaient contentés de le fixer sans réagir. En fin de compte, ce fut l'un d'eux qui prit l'initiative, s'avançant vers Manmuth, lui saisissant la main et l'attirant vers son torse.
« J'y vais ?»
demanda Manmuth à Orphu via la liaison com.
« Tu n'as pas le choix. »
Manmuth grimaça en sentant sa main s'enfoncer dans la chair molle, ses doigts se refermer autour de ce cœur vert et palpitant, baignant dans un fluide tiède et sirupeux.
« Comment pouvons nous vous aider ?
Manmut avait 100 questions à poser, mais Orfu l'aida à dégager ses priorités.
Le submersible, dit l'Ionien. Nous devons le mettre hors de vue avant qu'un char le repère.
Employant un mélange de mots et d'images, Manmut transmit l'idée que le submersible devait vers l'ouest et se planquer dans la grotte creusée dans la falaise saillant de la côte à cet endroit.
Oui.
Plusieurs vingtaines de petits hommes verts se mirent au travail tandis que Manmut restait planté là, la main plongée dans le torse du traducteur. Ils plantèrent des tiges métalliques dans le sable, attachant de nouveaux câbles à la dame noire et les passant dans des poulies. Le traducteur attendait patiemment, la main du Moravec autour de son cœur.
« Je veux l'interroger sur les têtes de pierre, » dit Manmut à Orfu. « Lui demander qui ils sont, pourquoi ils font tout cela ?»«
Quand nous aurons trouvé un moyen d'aller à Olympus. »
Manmut soupira et transmit la requête appropriée. Il visualisa le gigantesque volcan tel qu'il l'avait vu en orbite et demanda si les PHV pouvaient les aider soit à gagner les Highlands de Tempetera, soit à longer la côte de la mer de Tétis sur 4000 km pour rallier Olympus Mons via celle d'Alba Patera.
« Cela n'est pas possible. »
Qu'entend-il par là ?
S'enquit Orfu lorsque Manmut lui eut relayé cette réponse.
Qu'ils ne peuvent pas nous aider, ou qu'on ne peut pas aller vers l'est depuis ici.
Manmut avait éprouvé un semblant de soulagement lorsque le traducteur avait signé l'arrêt de mort de leur mission, ou quasiment. Mais il lui transmit la requête de clarification émise par Orfu.
Impossible pour vous de voyager vers l'est, car les habitants d'Olympos vous verraient et vous tueraient.
Demande-lui s'il existe une autre route,
insista Orfu.
Peut-être qu'on pourrait passer par Caseivales.
Non, vous irez en Felouk, à Noctis Labyrinthus.
Qu'est-ce qu'une Felouk ?
Demanda Orfu quand Manmut lui relayait cette réponse.
Un dessert italien ?
C'est un petit bateau à deux mâts propulsé par voile et par rame, répondit Manmut qui avait téléchargé lors de sa formation toutes les données maritimes disponibles sur Europe. Elle sillonnait la Méditerranée, il y a des millénaires de cela.
Demande-lui quand nous pourrons partir.
Quand pourrons-nous partir ?
S'enquit Manmut, pour lequel la question apparut sous la forme d'une vibration dans les doigts et d'un picotement dans l'esprit.
La barge de pierre arrive demain matin. La Felouk l'accompagne. Vous pourrez la prendre.
Nous avons besoin de récupérer certaines choses dans notre submersible, dit Manmut.
Il visualisa l'engin et les deux autres objets qui se trouvaient dans la soute, faisant comprendre au traducteur qu'il fallait les transporter sur le rivage, puis dans la grotte. Il visualisa ensuite les PHV acheminant Orfu dans cette même grotte. Comme pour lui répondre, plusieurs douzaines de petits hommes verts se dirigèrent vers le navire. D'autres s'approchèrent d'Orfu et entreprirent de fabriquer, avec des rondins, une palette destinée à l'accueillir.
« Je ne pense pas pouvoir tenir plus longtemps le cœur de cet homme, » dit Manmut à Orfu. « C'est comme si je cherchais à saisir un fil à nu. »«
Lâche-le, alors. »«
Mais... »«
Lâche-le. »
Manmut remercia le traducteur, remercia tous les petits hommes verts et lâcha prise. À l'instar de son congénère, le PHV s'effondra sur le sable, tressaillit, soupira et mourut.
« Ah, mon Dieu !»
murmura Manmut. Il s'appuya contre la carapace d'Orfu. Les petits hommes verts avaient déjà entrepris de la soulever pour glisser des rondins sous sa masse.
« Que font-ils ? »
Manmut décrivit à son ami la scène qui l'entourait, les PHV qui se préparaient à le transporter, ainsi que l'engin et les autres objets qu'ils extrayaient déjà du submersible, les câbles qu'ils attachaient à celui-ci et sur lesquels ils tiraient par centaines, acheminant la dame noire vers la grotte où elle serait à l'abri des regards.
« Je t'accompagne là-bas »,
précisa Manmut d'une voix éteinte. Le cadavre du traducteur ressemblait à une carcasse desséchée sur la plage. Tous ses organes s'étaient désintégrés et le fluide vert s'en était écoulé, transformant le sable en une boue brunâtre. Les autres petits hommes verts, indifférents à ce spectacle, commencèrent à tracter Orphue en direction de l'ouest.
« Non, » dit l'Ionien, « tu sais ce que tu as à faire. »
« Je t'ai déjà décrit ces visages quand je les ai observés depuis l'océan. »
« C'était en pleine nuit, par l'intermédiaire de la bouée périscopique. Nous devons les examiner à la lumière du jour. »
« La tête la plus proche de nous a été réduite en pièces, »
dit Manmut qui se jugea un tantinet géniard.
« La suivante est à un bon kilomètre d'ici, au sommet de la falaise. »
« Vas-y. Je reste en contact radio avec toi pendant qu'il m'emmène dans la grotte. » « Tu n'auras aucun mal à t'assurer de loin qu'ils prennent soin de la Dame Noire. »
Manmut rendit les armes à contre-cœur et mit le cap à l'est, s'éloignant de la foule de PHV, tractant son submersible le long de la côte et Orphue sur la plage, vers l'ombre accueillante de la grotte. La tête tombée au pied de la falaise était en trop mauvais état pour qu'on identifie ses traits. Manmut gravit à grand-peine le sentier escarpé que les petits hommes verts avaient descendu sans effort apparent. Il était étroit, horriblement raide et effroyablement glissant. Arrivé en haut, il marqua une pause pour recharger ses cellules et regarder autour de lui. Au nord, la mer de Tétis s'étendait à perte de vue. Au sud, la pierre rouge du rivage laissait la place à des collines rouges également, et à plusieurs kilomètres de là, au vert des forêts ou des broussailles poussant sur les contreforts des montagnes. Quelques brins d'herbe poussaient au bord du sentier longeant la falaise. Il marqua une nouvelle pause pour examiner le socle installé par les petits hommes verts pour accueillir la tête qu'ils avaient sacrifiée afin d'arracher la porte de la soute du submersible. Il avait été mis en place avec soin et Manmut vit que l'excroissance saillant du cou de la statue devait s'insérer dans un trou creusé dans la pierre afin d'assurer la stabilité de l'ensemble. Ces petits hommes verts sculptaient et travaillaient la pierre avec une indéniable habileté. Il continua de marcher vers l'est. La dernière tête mise en place lui apparaissait à l'horizon. Le Moravec n'était pas conçu pour la marche à pied, son rôle était de rester assis aux commandes de son submersible et parfois de nager, et lorsqu'il se lassait d'être un bipède, il altérait la configuration de ses articulations et de son épine dorsale pour avancer à quatre pattes, un peu comme un chien. Lorsqu'il arriva enfin devant la tête de pierre, il s'immobilisa devant sa large base, découvrant qu'elle était fixée au socle par une sorte de ciment. Il se tourna vers l'est, parcourant du regard le sentier que des milliers de PHV avaient creusé le long de la falaise, puis vers l'ouest, là où la foule verte était sur le point de planquer dans la grotte Orphue et le submersible.
« Tu y es ?» demanda la voix d'Orphue.
« Oui, je suis adossé à la chose. »«
Que donne le visage ?»«
L'angle d'examen n'est pas idéal. Je ne vois qu'un menton, des lèvres et des narines. »
Redescends sur la plage. Pour une raison que j'ignore, ces visages doivent être vus depuis l'océan.
Mais...
Manmut considérait la falaise raide, qui faisait bien 100 mètres de haut. Il distingua là aussi un sentier escarpé et glissant qui permettait d'atteindre la plage.
Si je me casse le cou, ce sera de ta faute, lança-t-il.
Compris,
répliqua Orphue.
Je sens des vibrations à mesure qu'il me déplace. Mais j'ignore à quelle distance je suis de la grotte. Tu vois quelque chose ?
Manmut se tourna vers l'ouest et augmenta son acuité visuelle.
Il te reste 200 mètres à faire. Je vais descendre maintenant. Tu es sûr que je dois aussi aller voir la tête suivante ? Elle est à 1 kilomètre d'ici et elles m'ont paru identiques quand on était en orbite.
Je pense qu'il faut aller s'en assurer,
dit Orphue.
Dixit le mort avec sans jambes.
Marmonna Manmut. il entreprit la longue et pénible descente. Il prit le maximum de champ, ne s'arrêtant que lorsqu'il sentit les vagues lui lécher les jambes. Le visage était net mais inconnu. Muet, perdu dans ses pensées, il parcourut un kilomètre supplémentaire sans remonter sur la falaise. Le deuxième visage était identique au premier. Fier, impérieux, autoritaire, les yeux fixés sur l'océan. Un visage de vieillard sculpté dans la pierre, le crâne dégarni mais la nuque et les tempes recouvertes de longues mèches, le front ridé, de petits yeux sous des sourcils au dessin sévère, des pattes d'oie, de hautes pommettes saillantes, un menton petit mais ferme, des lèvres minces aux plis peu amènes, un visage quasiment dénué d'humour.
« C'est un vieillard, »
dit Manmuth par radio.
« Un humain de sexe masculin et d'un âge avancé, mais il ne correspond à aucun portrait archivé dans ma base de données historique. »
Il n'entendit que des parasites pendant quelques secondes.
« Fascinant, » dit finalement Orfu. « Pourquoi un vieil homme de la Terre a-t-il droit à ces millions d'effigies en pierre le long d'une côte martienne ?»«
Aucune idée. »
« Fait-il partie du peuple des chars ?» demanda Orfu. « Ressemble-t-il à un dieu ?»«
Pas un dieu grec. Il m'évoque surtout un vieillard puissant, mais atteint de troubles digestifs. »« Je peux revenir maintenant ?»« Avant qu'un barbu en toche pilotant un char volant me découvre ici, bouche bée, comme un vulgaire touriste ?»«
Oui, » fit Orfu. « Je pense que tu devrais revenir. »